Un grand bonjour à vous tous, chers amis auditeurs. Pourquoi affirmer être chrétien, donc disciple du Christ, sans suivre son exemple? Observez-vous des fêtes que ni le Christ ni les apôtres n'ont observées, des fêtes qui diffèrent de celles décrites dans la Bible, qui, elles, sont appelées fêtes de l'Éternel et qui ont été données à perpétuité. Il est possible que ce que vous avez appris sur Dieu, ou ce que vous croyez savoir sur lui, ne vient ni de Dieu ni de sa parole inspirée, mais probablement de votre entourage, de ce que vous avez entendu et lu sur Dieu, ou de ce que d'autres personnes vous ont dit. D'où ces personnes ont-elles glané leur connaissance? Elles aussi l'ont reçu d'autres personnes, et c'est ainsi qu'on accepte des croyances, généralement adoptées, sans prendre la peine de vérifier leur validité. Nous n'aimons pas l'admettre, mais nous sommes des créatures d'habitude, et trop souvent, nous suivons les coutumes et les traditions de la société. Mais si le monde prenait la peine de vérifier ses croyances dans la parole de Dieu, il n'y aurait pas, sur Terre, toute cette panoplie de croyances et de religions différentes. Beaucoup d'anciennes croyances et de pratiques païennes ont été adoptées par le monde chrétien. En examinant le Nouveau Testament, nous pouvons constater qu'elles brillent par leur absence dans l'enseignement du Christ et des apôtres. Elles ne correspondent pas aux croyances et aux pratiques de l'Église apostolique. Mais cela passe pour ainsi dire inaperçu, parce qu'à première vue, elles ressemblent singulièrement aux enseignements du Christ, tout comme un négatif peut ressembler à une photo. Cependant, si nous approfondissons l'examen des Écritures, nous pouvons constater que l'enseignement et les observances de l'Église chrétienne primitive sont bel et bien différentes des croyances et des pratiques chrétiennes modernes. Ce qui est faux ressemble bien souvent à la vérité. En effet, si quelqu'un veut faire croire à un mensonge, il va tordre légèrement la vérité pour que son mensonge passe inaperçu. C'est ainsi que d'anciennes légendes païennes furent ajoutées à l'enseignement du Christ et changèrent volontairement la religion chrétienne en une autre religion. Si la majorité des églises modernes enseignent et pratiquent autre chose que l'enseignement biblique et poussent par conséquent les gens à désobéir à Dieu, il est important de vérifier la source de vos croyances. Vous serez ainsi surpris de découvrir que le monde chrétien suit des pratiques qui remontent à l'ancienne Babylone. Toutefois, il a bien soin de cacher leurs origines païennes. Pensez-vous que les religions païennes furent éliminées lorsque le Christ débuta son ministère? Détrompez-vous. Des siècles après la mort du Christ, des temples étaient encore dédiés à Apollon ou à Dionysos parmi les Grecs. Des temples étaient dédiés à Hercule chez les Romains. Chez les Perses, le culte de Mithra florissait, ainsi que celui de Baal et d'Astarté chez les Babyloniens, sans les mentionner tous. Malgré l'éloignement géographique, il est surprenant de constater que les pratiques de ces cultes, leurs cérémonies, ont des ressemblances troublantes entre elles. Elles ont aussi des ressemblances troublantes avec le véritable christianisme. Pour 11 dieux principaux que l'on découvre dans 7 pays différents, on constate que leur naissance se situait autour ou au jour même de Noël. Ils étaient issus d'une vierge et ils étaient appelés porteurs de lumière, guérisseurs, médiateurs ou sauveurs. On prétendait qu'ils avaient été vaincus par les puissances des ténèbres. C'est la raison pour laquelle ils étaient descendus dans le monde des ténèbres. Mais ils s'en sortirent pour aller au ciel, devenant ainsi des pionniers pour l'humanité. C'est ainsi que Krishna, dieu hindou, peut être considéré comme un véritable précurseur de la vie du Christ. Le concept d'un dieu sacrifiant son fils pour sauver l'humanité remonte si loin qu'on le retrouve dans les religions les plus anciennes. Troublant, n'est-ce pas? C'est à se demander qui avait inspiré ces croyances comportant tant de similitudes avec le christianisme, mais qui arriverait, lui, bien plus tard, à introduire et à imposer des éléments contraires aux enseignements bibliques. Lucifer était un archange créé par Dieu. Il avait été placé sur terre pour y régner et maintenir le gouvernement divin. Le prophète Ésaïe nous révèle qu'il voulut élever son trône au-dessus de tous et supplanter Dieu. Il fut autorisé à maintenir son règne sur la terre, ce que Matthieu confirme dans son récit de la tentation du Christ. Le diable le transporta sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit « Retire-toi, Satan. » Remarquez que tous les royaumes du monde lui appartiennent. Il règne sur la terre, d'ailleurs il séduit toute la terre. En disant au Christ « Adore-moi », il essaye de l'assujettir à son autorité. En examinant ce passage des Écritures de plus près, on constate que Satan tente de camoufler ses mensonges en tordant les Écritures, et c'est ainsi qu'il est arrivé à séduire toute la terre par l'intermédiaire de ses églises. Cette tactique est d'ailleurs déjà utilisée lors de son discours à Ève dans le jardin d'Éden. En effet, c'est en tordant les paroles de Dieu qu'il arriva à séduire Ève. Examinons ce récit. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit « Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. » Ève convoita ce fruit. Elle suivait les conseils de Satan plutôt que les ordres de Dieu. Quant à Adam, en toute connaissance, il accepta le fruit que lui présenta sa femme et suivit le même chemin. Le résultat de leur choix nous est commenté par l'apôtre Paul. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. La possibilité d'obtenir la vie éternelle venait d'échapper à Adam et Ève. Mais Dieu est miséricordieux. Il annonça alors la venue d'un sauveur. Lisons ce qu'il dit au serpent. « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Tous ceux qui vécurent dans la foi et l'obéissance à Dieu avaient leur regard dirigé vers l'époque où ce sauveur allait venir, car ils espéraient et attendaient ce sacrifice. Aujourd'hui, nous devons regarder en arrière pour accepter le sacrifice de notre sauveur. Après le péché de nos premiers parents, le diable s'attela à la séduction de toute l'humanité et il y parvint. Que se passa-t-il à l'époque de Noé? Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Le mot « voix » est traduit de l'hébreu « derek » signifiant « façon de vivre, mode de vie ». Noé était un homme juste et intègre. Il fut sauvé du déluge, lui et les siens, son épouse, ses trois fils et ses brus. L'apôtre Pierre mentionne Noé. S'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui, huitième, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies. Pourquoi Pierre appelle-t-il Noé un prédicateur de justice? Le psaume 119 nous informe que tous les commandements de Dieu sont justice. Puisque Noé était prédicateur de la justice, il devait prêcher l'obéissance à Dieu. Noé était donc celui qui, après le déluge, continua à prêcher l'obéissance aux commandements et aux lois qui existaient déjà avant l'époque du Sinaï. Noé vécut après le déluge 350 ans. Les premiers descendants des rescapés du déluge reçurent l'enseignement concernant cette obéissance indispensable et la raison de la destruction par noyade de l'humanité leur fut expliquée. Ces hommes craignirent de pratiquer le mal. Ils vécurent ensuite en se conformant aux lois divines et cela dura jusqu'à ce que la discorde s'implanta au milieu d'eux. Ce groupe commença à émigrer des montagnes d'Ararat et se dirigea vers l'Est. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ces gens, appelés de nos jours Sumériens, trouvèrent cette plaine d'une fertilité prodigieuse produite par les sédiments des rivières Euphrate et Tigre. C'est ce territoire qui fut appelé la Babylonie. Les récoltes étaient bonnes, mais les vies étaient en danger à cause des animaux sauvages. Nimrod, qui était noir et descendant de Cush, dont le nom signifie « noir » ou « brûlé », rassembla tous ces gens et les organisa pour qu'ils puissent se défendre contre les attaques des animaux. Son prestige s'accrut. Il fit bâtir des petites villes protégées par un mur d'enceinte afin d'obtenir une meilleure protection. Ils se dirent l'un à l'autre « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » Et les briques leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. C'est ainsi qu'ils construisirent leur petite ville. Bientôt, celles-ci ne furent plus suffisantes. Ils décidèrent d'établir leur gouvernement et se mirent à penser qu'ils ne devaient plus obéir à Dieu, d'autant plus que Dieu voulait les disperser sur la face de la terre. Pour résister à Dieu et échapper à sa colère, ils décidèrent de s'assembler, de construire une ville plus grande au sein de laquelle ils érigeraient une tour, dont le sommet atteindrait le ciel. De cette façon, ils seraient certains d'échapper à un nouveau déluge. Ils dirent encore, « Bâtissons-nous une ville et une tour, dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom. » Autrement dit, formons un seul groupe, une seule famille, une seule tribu, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Ils voulaient recommencer l'expérience d'Adam et Ève, c'est-à-dire faire leur choix, prendre leur décision. Ils rejetèrent ainsi leur Créateur, l'Éternel. En érigeant cette grande tour, ils s'imaginaient se tenir hors de portée de Dieu. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, « Voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils avaient projeté. Allons, descendons et là confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. » Et l'Éternel les dispersa, loin de là sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Babel ou Babylone signifie confusion. Cet événement nous est également relaté par l'apôtre Luc. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Le prophète Ésaïe relate que, lorsqu'il préparait sa rébellion contre Dieu, Satan déclarait « Je monterai sur le sommet des nues ». Les habitants de Babel avaient la même intention lorsqu'ils construisirent leur tour. Ce faisant, ils rejetaient l'autorité divine. Ces événements doivent nous servir d'exemple. Nous ne devons pas oublier que notre manière de vivre est décrite dans la Bible. Personne ne peut dicter notre conduite, sauf Dieu. Voilà pourquoi Pierre et les autres apôtres n'hésitèrent pas à répondre à ceux qui leur défendaient d'enseigner au nom de Jésus « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes ». Beaucoup d'anciennes croyances et de pratiques païennes ont été adoptées par le monde chrétien. Elles ne correspondent pas à l'enseignement du Christ, ni aux pratiques et croyances de l'Église apostolique. C'est ce que nous verrons la semaine prochaine.